Michel, pour continuer ce 16e de Radio Barque, tu prévois de revenir sur les vœux du député Perea. Alors, un thème que tu as déjà développé plusieurs fois, mais sur lequel peut-être, en tout cas, tu juges utile de revenir.
Oui, parce que Alain Perea, c'était la première année qu'il réunissait les corps constitués, fêtait certains élus, dont la journaliste qui avait été invitée a fait observer assez perfidement d'ailleurs qu'il avait formé ses voeux devant un parterre à faire assez confidentiel. Mais bon.
Oui, pour quelle raison fois. C'était pas clair d'ailleurs.
Oui, c'est vrai que bon, sur la photo, il n'y a pas grand monde, quand même. Peu importe. En tout cas, bon, il a donné ses voeux, fait devant des représentants de divers corps constitués, comme cela est habituellement dit. Je n'y étais pas, donc je me suis référé pour faire cette chronique au compte rendu de la journaliste de l'Indépendant. Et une observation d'Alain Perea a particulièrement retenu mon attention, tu as un peu défloré, à savoir sa difficulté, a-t-il dit, à porter, c'est lui qui le dit, ça, à porter les voix du territoire. Et l'ambiguïté, là aussi, je cite, est permanente entre porter la politique nationale et faire entendre les territoires. C'est vrai que cette notion de territoire, entre parenthèses, revient systématiquement dans les discours, sans que jamais personne n'explicite effectivement ce que ces territoires-là couvrent. De quel territoire on parle?
Géographie, c'est un peu le mot géographie. À la mode, ça remplace région, département, non, mais,
ça voilà, c'est ça. Tout est-ce, ça, que ça est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est la géographie du territoire? Est-ce que ce sont les institutions qui gouvernent les territoires? Est-ce que ce sont les acteurs qui composent? Ouais. Enfin, personne n'en sait rien.
Ça remplace un peu collectivité locale. Enfin, c'est un ça. Peu, oui.
Bon, retenons l'idée simplement que Perea a du mal, visiblement, à faire entendre la voix, en fait, de son territoire, c'est-à-dire, prenons-le au sens générique du terme, tout ce qui le compose, les collectivités locales, les entreprises, les syndicats professionnels, que sais-je encore, et puis articuler ça avec la politique nationale. Oui. Qui n'est pas une difficulté, entre parenthèses, car que je sache, un député, c'est fait pour faire la loi et contrôler l'action du gouvernement.
Oui.
Et par définition, oui. Une loi est de portée générale, oui. Pas de portée particulière. Oui. Une loi ne légifère pas pour un département ou pour une collectivité, un secteur professionnel ou je ne sais quoi. Donc forcément...
Ça, voilà. Ça, c'est la théorie, mais la pratique, ça ne se passe pas comme ça.
Mais ça veut dire qu'au fil du temps, en fait, et avec le système qui était le nôtre, je parle du système électoral qui était le nôtre, qui faisait qu'on avait souvent, pour ne pas dire en permanence, des députés qui étaient aussi députés et maires, en fait, ou sénateurs, en fait, et présidents de conseils généraux. C'est vrai que, ils étaient à la fois, de fait, les représentants de leur territoire, parce qu'ils étaient maires, en fait, et en même temps, ils portaient la politique nationale.
Donc, les choses sont quand même plus claires de ce point de vue-là,
Elles sont beaucoup plus claires, et puis, c'est une question qui est mal posée, parce qu'on peut très bien être député, c'est-à-dire faire la loi, et puis être en relation, en interaction permanente avec son territoire, en fait, tel qu'il est composé, je veux dire, avec ses institutions, les départements, les départements, les communes, les intercommunalités, enfin les secteurs professionnels. Il suffit de s'organiser, d'organiser son emploi du temps pour les rencontrer, faire des réunions avec eux, enfin que sais-je. Et puis j'ajoute en même temps que mais il n'est pas le seul parlementaire.
Certainement.
Il y a aussi le sénateur. Le sénateur, lui, par définition, l'élu des territoires, puisque c'est lui, il est élu par les communes, les conseils généraux et les intercommunalités. Donc s'il y a bien un parlementaire, c'est-à-dire quelqu'un qui fait la loi avec l'Assemblée, c'est bien le sénateur, et qu'il est après tout plus légitime à parler, à porter la voix des territoires, que le député, lui, ne l'est.
Comme le fait, par exemple, Roland Courteau.
Donc de ce point de vue, on pourrait dire que Roland Courteau est plus légitime, entre guillemets, d'un point de vue institutionnel, à porter la voix des territoires, des collectivités, que le député qui, lui, a une fonction beaucoup plus transversale, quoi. Et il s'est posé la question, donc, mais comment réinjecter du lien, en fait, entre lui, en fait, et ce territoire? C'est là, je dis simplement, c'est une question d'organisation, c'est à lui à voir avec ses équipes, comment, effectivement, réunir de temps en temps les maires, les intercoms, aller les voir, comprendre leurs problèmes. En plus, il est bien placé pour en parler.
S'il les réunit, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont lui demander qu'il aille intervenir à Paris pour telle chose.
Non, mais par exemple, il pourrait faire observer ces élus en question, par exemple le président du Conseil général, voire même le président de l'Intercom, que aujourd'hui, c'est le grand foutoir entre collectivités dans des domaines de compétences qui ne sont pas clairement partagés. Par exemple, prenons quelques exemples. Le sport, la culture, le tourisme, et que sais-je encore.
Avec ces financements croisés.
Tout le monde intervient. Il y a quand même quelque chose d'absurde, à ce qu'un président de la commission de tourisme de la région passe son temps en fait à circuler dans toute la région Occitanie pour examiner des demandes de subventions de 500 ou de 1000 euros en fait à il habite dans l'Aude, hein, dans le Tarn-et-Garonne ou je ne sais où. C'est absurde en fait, hein. Donc il y a des compétences qui aujourd'hui sont exercées en fait et prises par les uns et par les autres qui devraient être clairement effectivement distinguées en fait, réparties. Voilà le genre de remarques, de propositions que pourrait entendre en fait, remarques que pourrait entendre un député, de propositions qui pourraient être formulées par différents acteurs. Et en même temps, tenter de les faire passer par des propositions de loi, en fait, des amendements au niveau législatif.
Voilà, on lui reposera la question à Alain Perea quand il sera là dans quelques
deuxième
semaines.
Deuxième remarque, si tu permets, le lien aussi, il passe aussi par son organisation partisane. Je veux dire, le problème aujourd'hui du député de la République En Marche dans ce département, mais comme partout ailleurs, c'est que sur le terrain, ben, ces troupes, elles sont pas du tout organisées et n'ont pas les moyens de se faire à la fois entendre par les électeurs, en fait, les électeurs et les habitants. Et surtout de faire remonter vers le député, vers les instances nationales, un certain nombre de ressentis, d'impressions et de préoccupations, de frustrations des électeurs eux-mêmes. Donc ça s'est apparu clairement à travers les Gilets jaunes.
Lors du dernier mouvement, bien entendu.
Bien sûr, et de ce point de vue, entre parenthèses, de ce point de vue, le Gilet jaune exprime une réalité et donc...
Ah oui, oui, oui,
faire et dans sa nature,
met le manière, doigt sur un problème.
Et d'une certaine manière, apporte de l'eau au moulin en fait, à un gouvernement qui prétend vouloir révolutionner en fait, un certain nombre de relations institutionnelles dans ce pays.
Ils leur disent chiche.
Chiche.
Alors, les Verts font pipi sous la tente, plus exactement, en quête de glyphosate, de traces de glyphosate.
Oui, non, mais tu sais, alors pourquoi ce billet ? Parce que.
C'est un
je dois le dire là aussi, je suis assez irrité, encore une fois, après les Gilets jaunes, en fait, et puis les radars, par les Verts en général. Je ne vise pas en particulier Marisa Zerenditi, bien au contraire, en fait, son mouvement. Mais en tout cas, un mouvement général qui, en tout cas, dans cette partie de ce département, développe une stratégie en fait, de la peur. Hein, qui pose quand même un sérieux problème, quoi. Pratiquement tous les jours, si la presse rapporte, en fait, des propos, des initiatives des uns et des autres pour nous dire que, avec la nouvelle cheminée d'Areva, on va mourir de cancer dans la probabilité qu'on meure du cancer dans cette région est beaucoup plus élevée que partout ailleurs. Donc le message implicite, c'est pas de tout faire pour il y a le moins de dioxyde de carbone rejeté par cette cheminée. Non,
c'est on ferme tout.
C'est on ferme tout.
On ferme tout.
Je lis ce matin d'ailleurs qu'un viticulteur célèbre en fait dit dans la presse que effectivement le problème c'est l'existence même d'Areva dans cette région.
Voilà. Cela, il est temps de s'en apercevoir.
Depuis que cette usine existe et que depuis des cheminées en fait de cette usine en fait rejettent dans l'atmosphère des dioxines en fait ou d'autres produits toxiques. Hein. Entre parenthèses, c'est pas très loin non plus d'Areva. Il y a la Farge qui a une cheminée aussi.
Oui, qui en rejette, ça tombe très bien qu'on ait Marie Zerditi à ce micro tout à l'heure.
Oui, puis sur l'autoroute aussi, les gens qui habitent Armissant et Villassant, ils en prennent plein la tête, si je puis dire, aussi de dioxyde pratiquement tous les jours, entre Narbonne et Béziers. C'est autant de quantité que de la seule cheminée qui va sortir d'Areva, en fait, du côté de Moussan.
Donc le problème, c'est pas ce qu'ils font, c'est l'exagération, c'est l'alarmisme cultivé.
Si tu rajoutes à ça, une campagne qui a eu lieu aussi il n'y a pas très longtemps, toujours mené par la même organisation d'ailleurs sur à Montredon, quand vous buvez de l'eau, on vous empoisonne, vous allez mourir là aussi. J'ai vu les tracts, mais c'était effrayant quoi. Vous allez mourir du cancer en fait parce que vous avez absorbé ça en fait. Puis arrive maintenant le glyphosate. Le glyphosate qui est aussi qui fait l'objet d'une campagne là aussi de terreur quoi. En fait, il faut le dire quoi. Hein. Alors je dis ça. C'est pas que je veux les remettre en question encore une fois les gens qui militent pour qu'il y ait moins de pesticides, etc., utilisés par les agriculteurs. Loin de moi cette idée-là. Mais je dis qu'à force, effectivement, de terroriser, en fait, les esprits, de leur dire que demain ils vont mourir d'un cancer parce que le soleil c'est cancérigène, parce que la viande c'est cancérigène, parce que, tout est cancérigène, à la limite, quoi. Absolument tout. Tout est une question de dose, comme dirait l'autre, C'est Parcells, je crois, qui disait, tout est danger, en fait, tout est c'est poison, rien n'est poison, mais tout est dans la dose, quoi, bon, pour s'en sortir. Là, la dernière opération qui a été menée, c'était à la Haute-Maine de l'Angèle, où on a vu un député européen, Éric Andrieux, avec d'autres, notamment Marie Zarditi, donner, faire pipi dans des éprouvettes pour vérifier le taux de... Bon, il y en a, mais le problème de savoir, c'est que comment l'interpréter, cette dose de glyphosate dans les urines. Est-ce qu'il y a effectivement aujourd'hui fait un VIB, une vérification qui permette de dire attention, le taux que vous avez dans les urines, c'est extrêmement dangereux et vous allez mourir demain si on ne fait rien.
Oui. Non, bon, voilà. En fait, le problème, il est dans la dose, justement.
Bien dans la dose.
Dans l'alarmisme, même si ces interventions sont fondées.
Voilà, et donc moi, ce que j'appelle effectivement un mouvement environnemental qui soit à la fois raisonnable et raisonné.
On va poursuivre tout de suite après cette deuxième pause avec Marie Zarditi.